France Info.
Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est candidat à l'élection présidentielle, député des Yvelines.
Bonjour Henri Guénaud.
Bonjour.
François Fillon a été mis en examen hier pour les motifs suivants. Je lis: détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Quel est votre commentaire, Henri Guénaud?
Moi, je n'ai aucun commentaire sur la décision de justice. Je crois que le problème n'est pas là aujourd'hui. Le problème, ce sont les faits. On les qualifiera judiciairement comme on voudra. Le problème, c'est que ce qui est arrivé à François Fillon, ce qui a été dévoilé, le met dans une situation dans laquelle il lui est impossible de partager son programme avec les Français, qui est un programme de sacrifice. Vous ne pouvez pas demander aux gens des sacrifices quand vous vous trouvez dans cette situation. On ne peut pas aller à l'encontre des Français en leur disant « ça fait 40 ans que vous vivez trop bien, et maintenant il faut faire des sacrifices sans vous entendre répondre, et vous depuis 40 ans ». Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Deuxièmement, ça le met dans une situation dans laquelle tout le monde le sait, y compris ceux qui le soutiennent bec et ongles, que s'il était élu, il ne pourrait pas gouverner. Il n'aurait ni la légitimité, ni l'autorité pour gouverner.
C'est-à-dire, vous pensez que s'il était élu, ça veut dire quand même qu'une majorité de citoyens l'aurait élu, il n'aurait pas l'autorité pour appliquer son projet ?
Non, il ne l'aurait pas. Il n'aurait ni l'autorité, ni la légitimité, parce que...
Ça mettrait la France dans
la légitimité, c'est autre chose. C'est ça qui me chiffonne un peu.
Qu'est-ce que vous voulez dire par légitimité ? C'est une question de valeur et de principe. C'est pas une question de légalité, la légitimité. C'est qu'on reconnaît la validité d'un pouvoir, d'une autorité. Voilà, c'est l'autorité et la légitimité, c'est lié. Donc, il n'y aurait pas la légitimité morale aux yeux de beaucoup de gens pour pouvoir accomplir son programme, pour pouvoir incarner la France.
Mais il aurait la légitimité quand même d'être élu dans la situation que vous décrivez. S'il n'a pas la légitimité après, comment il l'aurait avant pour être élu ?
Ah, mais je pense qu'il ne sera pas élu.
Bon, ben voilà.
Ce qui me frappe, ce qui est très important dans la crise morale, dans le naufrage moral de cette campagne, c'est que des gens qui savent parfaitement, mais parfaitement, qu'ils ne pourraient pas gouverner, continue de le soutenir comme si de rien n'était. C'est le pire, le comble du cynisme en politique.
Ils sont piégés par la situation.
Mais vous êtes piégés par quoi ?
Il n'y a pas d'autres candidats républicains, c'est impossible. Mais,
si il y a des succès après-demain. Avant de se poser cette question de savoir si on est politiquement piégé, est-ce qu'on peut se poser la question de sa morale personnelle, de son honneur ? Est-ce qu'on peut faire de la politique sans jamais se poser la question de l'honneur, de la morale, de l'intérêt de son pays ?
Voilà. Il a perdu par quoi ? Il a perdu son honneur, François Fillon ?
Mais je ne parlais pas de
François Fillon.
Je parle de ceux qui le soutiennent en sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas gouverner. Donc ça c'est comme du cynisme, tout simplement pour préserver soi-disant l'unité de son camp. Vous comprenez, moi c'est inconcevable pour moi que l'unité du camp, les intérêts du camp ou du parti soient la finalité absolue, soient la finalité de la politique. On dirait que c'est la fin de tout, mais personne ne devrait se battre en politique que pour son camp. On se bat pour son pays. Rendez-vous compte, il y avait une droite qui pouvait de temps en temps reprocher à une certaine gauche de préférer son parti à son pays. Bon, et bien maintenant, cette droite-là, elle préfère elle-même son parti à son pays. Je trouve que c'est le comble de ce qui est insupportable en politique et de ce qui en ruine le fondement moral. Voilà.
Cette affaire nous permet de réfléchir au statut de la parole publique, à la foi qu'il faut accorder ou pas aux propos des responsables publics. François Fillon sur TF1 le 25 janvier.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas.
François Fillon, maintenant, c'était le lundi 1er mars, lors d'une conférence de presse.
C'est au peuple français que je m'en remets. Parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Henri Guénaud, vous êtes convaincu qu'il a déjà perdu cette élection présidentielle ?
Oui, c'est ma conviction. Maintenant, le peuple français va se... Je ne vais pas me prononcer à la place des Français, mais comme tous les Français savent qu'il ne pourra pas gouverner, comme la plupart des Français ne peuvent pas entendre un programme de sacrifice qui est le sien, dans la situation où il se trouve lui-même placé, je ne vois pas comment il pourrait passer le premier tour. Mais ce sont les Français qui décideront. Mmh. Je ne suis pas décidé à leur place ce soir. Je ne suis pas non plus...
Ce matin.
Je ne suis pas non plus Madame Soleil.
Oui, mais, parce qu'on va croire que l'émission est enregistrée alors qu'elle est en direct.
Il est vraiment 8h38.
Vous connaissez bien François Fillon, puisque quand vous étiez à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, il était Premier ministre. C'est une sorte de cohabitation qui a duré 5 ans. Est-ce que vous connaissiez ce rapport un peu particulier lié à l'argent qu'il a, que cette affaire révèle ?
Écoutez, moi, je connais François Fillon depuis une bonne trentaine d'années. Oui. Et je n'ai aucune envie d'épiloguer sur ce sujet. Voilà.
Vous le connaissez parce que vous avez été à ses côtés quand Philippe Séguin, en quelque sorte, était...
Il a été longtemps l'ami de Philippe Séguin, que je l'ai été aussi, que nous sommes donc souvent croisés dans le passé.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas surpris ?
Interpréter mon attitude comme un droit de retrait sur cette question. Voilà, je n'ai pas, moi, je veux pas jouer aujourd'hui là, les moralisateurs, les juges. j'ai mon opinion, ma conviction personnelle. Je ne crois pas simplement que dans l'état où il se trouve, dans la situation actuelle, il soit en mesure d'être président de la République et d'incarner convenablement la France aux yeux du monde et aux yeux des Français.
Mais quand même, l'histoire des costumes et du prêt, vous l'avez vécu comment, vous, par exemple ? L'histoire des costumes payés, du prêt de 50 000 euros ?
Je sais pas, moi, personne ne fait ce genre de cadeau.
Les costumes payés, c'est une exception, ça arrive, vous avez déjà vu ça, ça fait partie des mœurs.
Alors, ce qui fait partie des mœurs, mais ça ne m'est jamais arrivé, c'est que des couturiers, parfois, offrent des costumes ou des vêtements à des personnages publics.
Ça marche avec les hommes politiques, ça?
Pour améliorer leur image de marque.
Oui, mais sûr, là, c'est pas un couturier.
Non, c'est sûr.
Enfin, on ne sait pas qui c'est, d'ailleurs, mais c'est pas un couturier.
Des couturiers qui offrent des tenues à des présidents, à des premiers ministres, dans le monde entier. Mais ça, ce sont des raisons.
Enfin, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, là, c'est pas un couturier. Là, c'est pas un couturier.
Voilà, c'est juste que je voulais en venir. Sinon, pour le reste, non, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais là encore, je ne porte pas de jugement moral, je porte juste un diagnostic politique sur cette affaire et sur tout le reste. Voilà,
Et on y revient dans une minute, tout pile, il est 8h40, Victor Matet pour l'essentiel sur France Info.
François Fillon se redit innocent ce matin et convaincu que la justice établira cette innocence. Le candidat de la droite à Pertuis ce soir dans le Vaucluse, premier meeting depuis sa mise en examen hier. François Fillon, une réunion qui n'était pas prévue pour François Fillon, signe que le candidat veut accélérer sa campagne sur le terrain. 900 000 véhicules Renault potentiellement concernés. Le constructeur automobile aurait trompé ses clients sur le véritable niveau de pollution de ses moteurs diesel. Information du journal Libération. Le ministère du Travail avait réalisé des séries dites de testing l'an dernier et promis de dévoiler le nom des entreprises qui ne corrigeraient pas le tir. Résultat, les groupes Accor Hôtel et Courte Paille épinglés pour un risque élevé de discrimination à l'embauche. Le défenseur des droits va être saisi. C'est moins que ce qui avait été requis. Le braqueur Redouane Faïd, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour sa spectaculaire évasion de la prison de Sequedin en 2013. Il avait déjà été condamné l'an dernier à 18 ans pour une autre affaire. L'année 2016, année la plus dangereuse pour les professionnels de santé en Syrie. Depuis le début du conflit, il y a 6 ans, jour pour jour, plus de 800 soignants ont perdu la vie.
C'est Henri Guénaud qui est avec nous sur France Info jusqu'à 9h dans l'émission politique. Question Gilles Bornstein.
Oui, Henri Guénaud, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et le Conseil constitutionnel hier a révélé que vous disposiez de 17 parrainages, dont celui, figurez-vous, de Marine Le Pen. Est-ce que vous le saviez ?
Je l'ai appris, comme vous, au moment où Madame Le Pen l'a annoncé.
Voilà. Elle ne vous a pas passé un coup de fil avant pour vous dire...
Non, soyons clairs comme ça. Ouais. Je vais précéder la question suivante. C'est que je ne lui ai rien demandé et elle ne m'a rien demandé. Voilà. Mm-hmm. Elle a décidé, comme élu de la République, de m'accorder son parrainage. Je l'accepte comme n'importe quel autre parrainage. Je peux même lui dire merci, puisque comme je dis merci à n'importe qui m'accorde son parrainage. Le parrainage n'est pas un soutien, je vous le rappelle. C'est l'autorisation de se présenter.
Mais ce parrainage n'est pas équivalent aux autres. Sinon, nous n'en parlerions pas.
Pour moi, il est équivalent aux autres. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à la fin, on compte hein, arithmétiquement, et il est équivalent d'avoir un parrainage du maire de Marseille ou du maire d'une ville d'un village de 100 habitants.
Pas vraiment quand même, d'avoir, symboliquement.
Si Monsieur Mélenchon demain m'apporte son parrainage, eh bien je lui dirai merci. Si Monsieur Hamon m'apporte son parrainage, je lui dirai merci. Voilà, il s'agit d'un acte qui n'a à mes yeux à voir qu'avec l'exercice des prérogatives que la loi confie aux élus.
Une balle dans mais en vous disant vous êtes faire... de la famille, Monsieur Guinaud, elle est pas en train de vous dire vous êtes de la famille en quelque sorte. La mienne.
Mais moi, je ne sais pas si elle le dit. Elle l'a pas dit d'ailleurs.
Si.
Mais elle m'a pas demandé.
Elle l'a dit. Elle l'a pas non, dit elle là. Elle l'a pas dit hier. Mais elle l'a dit déjà début février.
Elle a parlé des patriotes.
Voilà, je vous propose de l'écouter.
Ouais.
J'étais sur
Europe 1 début février. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui dans la vie politique française sont des patriotes. Monsieur Guénot est un patriote. Monsieur Dupont-Aignan est incontestablement un patriote. Est-ce qu'ils sont capables de me rejoindre? Je le souhaite. En tout cas, je leur lance un signal et je leur dis si vous voulez œuvrer pour le pays. Alors, à un moment donné, il faudra rejoindre le grand camp des patriotes.
Est-ce que le sentiment patriotique peut faire passer au-delà des divergences qui existent entre vous et elle?
Mais j'espère que le sentiment patriotique unit la quasi-totalité de la classe politique de ce pays, même si j'en doute parfois. Voilà. Donc,
c'est dilatoire.
Non, c'est pas une réponse dilatoire.
C'était pas la question de Jean-Michel.
Me faire traiter de patriote est quelque chose que je ne trouve pas déshonorant. Voilà.
Donc, être qualifié de patriote.
Je m'affiche comme patriote. Après, chacun a sa façon d'être patriote. Moi, il n'y a aucune ambiguïté sur mon attitude depuis toujours vis-à-vis du Front National. Hein, je ne veux pas d'alliance avec le Front National. Je ne travaillerai pas avec le Front National. Maintenant, j'ai toujours dit aussi, le Front National est un parti qui est autorisé par les lois de la République. Il joue donc le jeu institutionnel comme les autres partis.
Mais voilà. Si il y a un deuxième tour, par exemple, Macron.
J'ai déjà répondu.
La pêche. Ouais, ça sera quand même le camp des patriotes contre. Une non, certaine
déjà,
idée de la
répondu.
Transnationalité, ça, vais, vous choisissez quoi entre ces
je vais, deux je vais, J'ai déjà répondu que je ne me mêlerai pas. Ça a fait d'ailleurs glousser certains, parce que il paraît qu'un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas ne pas voter au second tour. Monsieur Papati, sur un plateau de télévision l'autre jour, m'a dit « Alors vous mettez un signe d'égalité je, entre les
il
deux. »
Il dit des bêtises, hein, celui voilà. que vous avez cité hein des fois.
Non mais, simplement, moi j'en ai assez. De la vie politique rythmée par je fais des formes de genre je fais barrage à au bout d'un certain temps la vie politique ne peut plus se résumer à je fais barrage à je ne suis pas d'accord
si on fait pas barrage on favorise d'une certaine manière
mais non c'est la question c'est comment en sommes-nous arrivés là. Moi j'aurais tout fait pour qu'on n'en arrive pas là. Il y a des gens qui auront tout fait pour qu'on en arrive là. Voilà. En particulier, je reviens un instant là-dessus. Là, encore une fois, le parrainage, c'est pas un soutien, c'est une autorisation de se présenter. Hein, c'est une prérogative que la loi confie à un certain nombre d'élus.
Mais pourquoi vous n'en avez pas plus ?
Bien voilà, demandez-vous pourquoi.
Bah, je vous le demande. Peut-être pourquoi vous n'avez que 17
peut-être
parrainages ?
Parce que j'étais plus dangereux que d'autres.
Pour qui ? Voilà. Par quoi ? Il y a des pressions ?
Pour qui ? Vous savez, c'est toujours
pour
la
qui
même
et
histoire.
Pourquoi ?
On revient à notre conversation du début sur l'unité des camps et des partis, sur le fait que ça passe avant tout. Bon, il y a un certain nombre de gens qui jouent sur l'argument selon lequel je ferais perdre les 1 ou 2 points qui permettraient à M. Fillon d'être au second tour.
Est-ce qu'il y a eu des consignes à votre connaissance pour que vous n'ayez pas vos parrainages ?
Oui, bien sûr.
De qui ?
De qui ? De l'appareil des Républicains. Enfin, interroger les maires. Mais je ne suis pas le seul victime de ce genre de pression. De même que, vous savez, les partis jouent aussi des petits jeux. On a trouvé peut-être intéressant de parrainer certains petits candidats pour qu'ils prennent à d'autres, pour qu'ils empêchent certains de se présenter. Enfin, bref. C'est ça qui est le plus terrible que vous ne soulevez pas dans l'histoire du parrainage de Madame Le Pen. C'est quand même triste. C'est même à la limite de la honte que Madame Le Pen me parraine alors que mes propres amis politiques, ceux avec lesquels je suis censé me battre sur des valeurs qui sont en train de jeter à la rivière, ne m'accordent pas les parrainages et empêchent par tous les moyens que je les obtienne. Voilà, c'est ça qui est terrible.
Mais Monsieur Guénot, du coup, pardon, puis il y a une question de deuxième tour tout à l'heure, mais moi du coup j'ai une question de premier tour. Oui. Si vous n'avez pas les 483 voix qui vous manquent, vous votez pour qui? Donc vous ne pouvez pas voter pour vous.
Non, mais ça je ne vous le dirai pas, si vous permettez. Ça je ne vous le dirai pas, on verra ce qu'est l'offre. et je me déterminerai dans le secret de, dans le secret des horloges.
Est-ce qu'avant on peut convenir, parce que Fabienne a un peu anticipé une étape, j'en suis désolé.
Pardon
Fabienne, est-ce qu'on peut convenir que ce matin, on peut dire que vous, n'êtes, vous ne pourrez pas être président, candidat à la présidence de la République. Vous pouvez
écoutez, moi je...
17 mais... parrainages et les parrainages sont clos vendredi à 18h.
Mais quand même, monsieur
D'accord, vous ne voulez pas en convenir. Non, non, d'accord, d'accord.
Non, attendez, il reste 48 heures. Qui sait, peut-être qu'en 48 heures, vous savez combien il y a plus de... Il y a entre 45 et 50 000 élus en mesure de parrainer. Le week-end dernier, il y en avait plus de 35 000 qui n'avaient pas donné leur parrainage, dont la plupart d'ailleurs, à part ceux qui sont encartés et qui veulent rester dans le troupeau, plus pour aller jusqu'à l'abattoir, hein, qui sont groupés, qui se moquent complètement de l'avenir de la France et du naufrage que représente cette désormais, à cause de beaucoup d'entre eux, cette élection. Il y a aussi l'énorme masse de ceux qui se font une fierté de ne parrainer personne. Rendez-vous compte ce qu'il y a d'anormal, pour pas dire de honteux et même de pourri dans le système actuel. Il y a 35 000 élus qui ne veulent pas parrainer.
D'accord. Mais bon. Vous ne voulez pas convenir ce matin que pour vous, l'aventure présidentielle jamais, n'aura pas lieu. Peut-être mais je reviens à la question de Fabienne.
Maintenant, puisque vous m'offrez ce matin un micro. Y a-t-il dans notre pays...
Oui.
Hein, parmi tous les élus républicains et centristes, 500 élus, parmi des dizaines de milliers d'élus, qui ont aujourd'hui assez d'honneur et de courage pour offrir une alternative à la candidature de François Fillon et permettre aux Français de choisir. Y a-t-il parmi les élus de tous bords, les dizaines de milliers d'élus de tous bords, 500 élus, seulement 500 élus capables de retrouver le chemin de l'honneur et de la démocratie. Y a-t-il parmi tous les élus, même ceux qui ne sont pas encartés, 500 consciences démocratiques? Ou bien allons-nous continuer sur la voie sur laquelle nous sommes engagés, car tout le monde sait que ça va mal finir? Regardez, je termine. Nous avions, Philippe Séguin dénonçait le Munich social. Souvenez? Eh bien, nous avons aujourd'hui le Munich social, le Munich économique, le Munich culturel. Nous sommes en train de rajouter le Munich démocratique. Seulement, voyez-vous, le lâche soulagement munichois conduit toujours au même drame. Et bien. Une fois encore, donc, ça s'annonce pas très bien.
Donc voilà. Voilà, donc vous avez pu lancer votre appel. Nous vérifierons vendredi à 17h ou à 18h, pardon, si vous aurez ou pas les parrainages.
Mais si je ne les ai pas, vous voyez ce que sera cette élection.
Et je signale juste avant que nous fassions la pause que d'autres candidats qui ne sont pas dans les appareils ont, eux, les parrainages. Je pense à M. Asselineau,
par
exemple.
Oui, parce que
peut-être Jacques Cheminat, des gens à la salle, auront peut-être aussi leurs parrainages.
Parce que les élus ont l'impression de ne pas faire de politique en les parrainant. Voilà, il y a des candidats dangereux qui apparaissent comme faisant partie du monde politique. Et ceux qui ont l'air de ne pas en faire partie, fussent-ils élus d'ailleurs.
Allez, on se retrouve dans une minute, 8h50, Victor Maté est là.
Benoît Hamon assure ne pas se sentir trahi, mais que les électeurs de la primaire de la gauche le sont sans doute. Réaction à la décision de Manuel Valls hier soir, l'ancien Premier ministre confirme qu'il ne soutiendra pas le candidat de son propre parti à la présidentielle avec des mots forts, dérive ou encore sectarisme. Il est souvent comparé à Donald Trump pour sa chevelure, mais aussi pour ses idées. Le candidat d'extrême droite, Geert Wilders, l'un des favoris des élections législatives aux Pays-Bas. Près de 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ont ouvert il y a plus d'une heure et demie. Il n'y aura peut-être pas de match entre Castres et le Stade français. Samedi, les rugbymen franciliens entament une grève illimitée, c'est du jamais vu, pour s'opposer à la fusion annoncée avec le Racing 92. Les footballeurs de Monaco seront bien sur le terrain ce soir. 8e de finale, retour de la Ligue des Champions et un exploit à réaliser contre Manchester City. Hier, Leicester et la Juve se sont qualifiés pour les quarts de finale.
Henri Guénaud est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Juste une autre question sur le sujet qu'on abordait à l'instant, Henri Guénaud. Vous n'avez pas voulu répondre sur le premier tour. Sur qui vous voterez au premier tour? Juste un détail. Est-ce que vous votez quand même pour quelqu'un? Est-ce que vous êtes parti pour voter blanc?
Non, je pense que je voterai pour quelqu'un, voilà. Mais ça ne sera pas François Fillon. Voilà, si vous voulez tout savoir.
Et, vous, pas Marine Le Pen non plus.
Et pas Marine Le Pen non
plus. Et pas Emmanuel Macron non plus.
Et pas Emmanuel
Macron. Et pas Jean-Luc Mélenchon non plus.
Nicolas Dupont-Aignan qui propose que vous soyez son ministre de la Défense dans son livre programme.
Oui, je crois que j'ai déjà répondu. Hein, je pense que chacun.
Pas la Défense.
Ferait bien de revenir à un peu de modestie et d'humilité. Voilà. On ne distribue pas les postes ministériels.
Vous dites ça à Nicolas Dupont-Aignan?
Comment?
Vous dites ça à Nicolas Dupont-Aignan? La modestie et l'humilité.
Je veux dire, distribuer des postes ministériels, ce petit jeu de la distribution, même fictive des postes ministériels avant les élections.
Enfin, vous votez pour
une bonne, ne paraît pas une bonne idée. Et d'autre part, non, je n'aspire pas aujourd'hui, pardonnez mon immodestie, à être ministre de la Défense de Nicolas Dupont-Aignan.
Pour qui vous voterez?
Mais je vous ai pas dit que je voterai pour lui. On verra. Il y a plein. Il y a beaucoup de gens que j'estime dans le paysage politique, qui sont pas forcément, avec lesquels je suis pas forcément d'accord, mais qui peuvent avoir envie d'apporter.
Alors, vous avez certainement étudié Molière à l'école. En tout cas, désormais, il y a la clause Molière qui oblige donc les ouvriers, les salariés en général, à parler français sur les chantiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne clause? Alors, que c'est un bon moyen de lutter pour le patriotisme que vous souhaitez.
Oui, là, c'est pas simplement un problème de patriotisme. D'abord, je pense que la langue française a été suffisamment délaissée, abandonnée par tous nos responsables
mais là,
politiques.
C'est pas le problème.
Elle mérite qu'on lui redonne la place qu'elle doit avoir. Vous connaissez le mot de Michelet, la France commence avec la langue française. Voilà, bon. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution qui soit, j'en suis pas absolument convaincu, parce qu'elle est très difficile à mettre en œuvre. Quand vous faites un chantier et que vous faites venir du personnel de tous les pays, c'est assez compliqué de les obliger à parler la langue française. On pourrait peut-être commencer avant, par exemple, par imposer que les réunions des conseils d'administration en France se tiennent en français, que nos ministres parlent le français, que tous les responsables parlent le français, que dans nos écoles, bien sûr, il puisse y avoir, je pense aux universités, aux grandes écoles, il puisse y avoir des cours en anglais ou en allemand, mais que l'essentiel de l'enseignement soit obligatoirement en français. On pourrait penser que nos chercheurs doivent publier à la fois en anglais et en français.
C'est intéressant ce que vous dites des grandes des entreprises et les conseils d'administration. Juste, c'est intéressant parce que on se flatte en France avec raison d'avoir des grandes entreprises, des acteurs mondiaux. Je pense par exemple au conglomérat Renault-Nissan ou bien KLM Air France. Là, les conseils d'administration, l'anglais est un peu le point de la réunion de ces dirigeants, parce que l'entreprise est internationale.
Et donc, du coup, on
peut pas s'enorgueillir d'avoir des entreprises qui ont des tailles mondiales et refuser l'anglais qui est la marque de la mondialisation.
Oui, mais d'abord, on n'est pas obligé de prendre la mondialisation telle qu'elle est, on peut aussi essayer de l'influencer. Voilà, mais si on renonce à ça, on renonce à tout. Si on renonce à sa langue, on renonce à tout. Je vais vous donner un exemple et vous proposer une piste de réflexion. L'exemple, c'était celui de Vivendi. Oui. Vous souvenez, moi je me souviens d'un grand patron siégeant au grand patron français, ancien président de banque, siégeant au conseil d'administration de Vivendi, quand on disait mais comme vous n'avez pas vu la situation qui à l'époque était mauvaise de Vivendi, et le grand patron en question, l'ancien banquier avait répondu ah vous savez ça se passait tout le temps en anglais, alors on comprenait pas toujours très bien, enfin en gros tout le monde faisait semblant, mais parce que c'est pas la même chose de discuter de problèmes compliqués
dans sa propre
langue.
La bêtise de la nature
humaine, voilà. Non mais c'est très intéressant. Alors deuxième remarque, vous savez, la Renaissance, hein, cette extraordinaire explosion de savoir, de contact, d'échange, elle s'est faite par l'abandon de la langue unique des élites, le latin, à l'époque, enfin le latin un peu dévoyé et déprécié, mais le latin quand même, remplacé par l'émergence des langues nationales et de la traduction. C'est la traduction qui a fait l'efflorescence culturelle de la Renaissance. La traduction, ça existe. Eh bien, il vaut mieux dans un conseil parler le français et dans un conseil en France, ou l'anglais en Angleterre, ou l'allemand en Allemagne, et traduire.
J'entends ce que vous dites, mais dans les écoles de commerce aujourd'hui, on s'efforce de former les jeunes françaises et les jeunes français
bien, moi, je vous le dis,
à une pratique très souple de l'anglais. Je ne suis pas sûr qu'on ait tort de faire ça.
Je
ne suis pas sûr que c'est un moment qu'il faille arrêter.
Mais
hein.
Je suis très content.
Et donc après,
je suis très content
si un néerlandais parle l'anglais, un français par l'anglais, mais tout le monde
monsieur
parle
Monsieur Apathy, je suis très content que dans les écoles, on apprenne l'anglais, l'allemand, le russe, le chinois.
Non,
je pense que plus on connaît de langues, et mieux c'est pour l'ouverture d'esprit, pour l'intelligence, pour la communication entre les peuples. Voilà. Mais je crois que si nous ne préservons pas ce trésor qui s'appelle la langue, qui n'est pas qu'un moyen de communication, mais qui est une façon de penser, qui est une culture, qui est une forme de civilisation, nous perdons tout. Et quand le monde sera uniforme, quand le monde sera tout plat, eh bien, ce sera le monde le plus triste qui soit.
Il nous reste peu de temps. Question Gilles Bornstein.
Oui, autre décision hier, la Cour de justice de l'Union européenne a dit qu'une entreprise pouvait interdire à ses salariés de porter le voile. Est-ce que ça va dans le sens de la laïcité?
Je suis agréablement surpris.
Ah, l'Europe voilà, fait des choses par bien.
Cette, oui, mais pour une fois que la Cour de justice prend une décision, ce genre, je pense qu'après tout, dans une entreprise, on a le droit de fixer des règles vestimentaires, des règles de comportement, voilà, que personne n'est obligé de travailler dans cette entreprise. Si quelqu'un n'a pas envie, il peut aller, c'est pas l'espace public. Hein, mais ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la laïcité, mais simplement avec la liberté pour un entrepreneur, pour une entreprise, de fixer les règles de vie en commun à l'intérieur de l'entreprise. Comme une société d'ailleurs a le droit de fixer les règles de vie en commun entre ses citoyens.
Comment ? Vous parlez de la liberté du chef d'entreprise, quitte à renier.
Non, parce que le règlement intérieur, il se fait pas comme ça sur un coin de table par le caprice du chef d'entreprise. Hein. C'est un document qui est partagé par toute la communauté de travail. C'est pas un caprice.
Je veux faire le cuistre sur le générique. Ouais. Michelet n'a pas dit la France, il a dit l'histoire de France.
Oui, il commence avec la langue française. Vous avez raison.
C'est très important parce que ça n'est pas la même chose, Monsieur Guénot, et vous le savez.
Ce n'était mais pas si, parce que s'il y a une histoire de France et qu'il y a une France.
Oui, mais voilà. C'est pas tout à fait pareil. Il faut être précis. Vous qui êtes précis, soyez précis.
Oui, mais vous avez raison.
Je suis cuistre et j'adore ça.
Mais ça veut dire exactement la même chose dans la bouche de Michelet, vous le savez très bien. Mais dont acte, vous avez raison.
Merci Henri Guénot d'avoir accepté l'invitation de France.
Merci Jean-Michel Apathy de m'avoir donné l'occasion de lancer un appel à la conscience de tous ceux qui ont l'air de ne plus en avoir.
Nous l'avons fait avec plaisir.
On n'a jamais vu un spectacle pareil depuis les débuts de la République en France que cette campagne. Jamais, même dans les fins de régime, même à la fin de la troisième, même à la fin de la quatrième. Est-ce que les uns et les autres vont se ressaisir? Voilà.
Et ce sera le dernier mot. Merci beaucoup. À demain tout le monde.